de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Qu'est-ce que Sans soleil, le film signé par Chris Marker en 1983 ? Des images, des sons, des musiques. Un texte, en forme de lettres, dit par Florence Delay. Ce n'est pas un documentaire, ni une fiction, sans aucun doute, même s'il doit aux deux quelque chose. Pas vraiment un récit, un essai, pourquoi pas. Un poème cinématographique, certainement. Un film, à n'en pas douter, est parmi les plus beaux de Chris Marker. Non pas réalisé, mais composé et monté par lui, comme indiqué au générique. En 1983, critique, réalisateur de films d'animation, mais surtout observateur admiratif et attentif du travail de Chris Marker, André Martin était invité à parler de Sans soleil dans le cinéma des cinéastes de Claude Jean-Philippe. Il y soulignait la dimension prophétique de l'écriture cinématographique de Marker, en qui il voyait un homme multimédia, alors que s'annonçaient les CD-ROM, l'interactivité, le numérique, les mondes virtuels et l'omniprésence de l'informatique. Le cinéma des cinéastes de Claude Jean-Philippe, André Martin parle de Sans soleil, un film de Chris Marker. Première diffusion, le 13 mars 1983, sur France Culture.
Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts. Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes sont les acteurs, les actrices.
Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné.
Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe.
Aussi, mon Dieu, faut-il avoir du goût.
Alors, si mes calculs sont bons, Caroline Champetier était née en 1954, donc à peu près à l'époque où André Martin écrivait ses premiers articles pour les Cahiers du cinéma, et personnellement, je m'en souviens très bien. Je me souviens très bien de cette période où l'amour du cinéma n'a jamais été aussi vif, aussi gai, aussi exigeant que ces années 50, qui bénéficiaient de la ferveur des aînés qui avaient vécu la grande période des années 30, et qui préparait de toute évidence l'avènement de ce qu'on a appelé la nouvelle vague, mais plus généralement d'un jeune cinéma, puisque à cette époque-là, Rouch était en Afrique, Marker partait pour la Sibérie, René filmait les camps de concentration, et bien évidemment, dans l'équipe des Cahiers, il y avait à côté de vous André Martin, des gens comme Truffaut, Godard, André Bazin, Éric Rohmer. Et, l'occasion de vous rencontrer, André Martin, à nouveau, c'est le fait que vous êtes ami avec Chris Marker. J'annonce tout de suite la règle du jeu de cette émission. Et que Chris Marker étant quelqu'un qui répugne très visiblement à répondre à des questions dans une interview. Et que donc, l'idée a été lancée que ce soit vous qui parliez, non pas en son nom, mais au nom de votre très vieille complicité, très vieille amitié du dernier film de Marker, qui est Sans soleil. Seulement, quand j'observe les choses, c'est-à-dire quand j'observe votre propre vie, votre propre carrière, André Martin, et quand j'observe celle de Chris Marker, Ma première question, c'est, enfin, qui est un peu, qui va essayer de rendre compte, hein, qui vous pose une question en réalité sur 30 ans, donc vous pouvez répondre sur 6 mois. Comment se fait-il que vous et Marker, par exemple, enfin, pour prendre que votre exemple, parce qu'on pourrait dire aussi Lénard, on pourrait dire d'autres gens, ayez pris le parti de la singularité, de l'autonomie et de ne vous inscrire dans aucun courant, alors que pourtant, le courant porteur, comme on disait en 1955, enfin, comme on dit aujourd'hui, comme on ne disait pas en 1955, était celui des cahiers du cinéma dans lesquels vous écriviez.
Peut-être que je commencerai par dire que je n'en étais peut-être pas capable. Le succès, la capacité de s'exprimer, la capacité de communiquer est un don difficilement explicable. Et la réussite de nos messages, c'est une chose, la recherche en est une autre. Il y en a peut-être qui sont plus faits pour rayonner sur l'audiovisuel, d'autres pour rechercher. Chercher. Est-ce que c'est une réponse qui vous satisfait?
Oui,
non,
enfin,
non, ça, vous n'êtes pas satisfait.
Non, pas vraiment, parce que ce qu'il y avait dans vos articles, enfin, je pense à vos articles sur les Marx Brothers, il y avait dans vos articles sur McLaren à l'époque, il y avait dans votre activité pour les journées du cinéma, et il faut en dire un mot aussi des journées du cinéma, si vous voulez en parler, parce que je crois que jamais les journées du cinéma nous ont autant manqué qu'aujourd'hui. Alors, je voudrais que vous racontiez ce qu'étaient les journées du cinéma.
Oh, c'est simple, c'était les débuts d'une circulation des œuvres cinématographiques plus rapide que celle des ciné-clubs. Ça consistait à organiser dans des villes de France une grande fête où brusquement tous les cinémas possibles débarquaient, y compris la version originale, ce qui n'était pas fréquent dans les villes qui à l'époque s'appelaient de province. C'était aussi l'occasion de créer un festival spécialisé pour les courts-métrages, en prenant bien la peine la première fois d'expliquer qu'on allait faire tout un festival avec rien que des courts-métrages, parce que ça aussi, ce n'était pas encore une idée reçue. Ça consistait aussi à distinguer... Oui, ça consistait à distinguer les provinces du cinéma, montrer comme il était pluriel, grand, compliqué, riche, divers.
Il y avait un côté forain aussi.
Alors, il est évident que pour faire comprendre cette attitude, qui ne correspondait pas à une attitude commerciale, une attitude académique, l'attitude foraine était celle qui faisait le mieux comprendre la règle du jeu dès la première seconde.
Et ça marchait très bien, je crois.
Et ça marchait très bien pendant deux décennies, ça a fonctionné. Et je crois qu'on s'est arrêté, nous, plus par lassitude que par impossibilité de continuer. Le festival d'Annecy aussi, qui était un festival sur les films d'animation et qui révélait bien que quelque chose se passait dans le cinéma image par image, bon, et à l'échelle mondiale.
Alors l'image par image, c'est devenu votre spécialité professionnelle, puisqu'il y a eu les dessins animés de Martin Bocher.
Oui, ça l'a toujours été. Je crois que le léger malaise que je pouvais ressentir au cahier du cinéma est que j'étais l'un des seuls cinéastes d'animation, un des seuls cinéastes de synthèse, à côté de cinéastes de prise vue réelle, de cinéma, d'un art d'enregistrement. Et je ne peux que me comparer à un étrange personnage qui passait au cahier du cinéma de temps en temps et qui était un spécialiste parisien de la danse et qui apportait des petits articles sur le cinéma industriel et sur le cinéma technique. C'est un peu un intérêt pour le cinéma de synthèse, pour le cinéma de total contrôle, pour le cinéma de totale fabrication, pour le cinéma de caricature, pour le cinéma de peinture, pour ce que Sadou l'appelait la ciné-peinture. Et mon apport intéressait beaucoup Bazin, par exemple. Nous avons eu des entretiens très riches sur les symboles, sur la graphie. Et je ne sais pas si un jour, au risque de faire parler un homme disparu, je n'essaierai pas de traduire le Bazin qui n'était pas le Bazin de la transparence en prise de vue réelle, qui était le Bazin du schéma, qui était le Bazin de la synthèse, qui était le Bazin de la discursivité. Et c'est très curieux parce que c'est un Bazin qui pratiquement n'existe pas pour l'univers entier et qui n'existe dans ses œuvres que par un seul mot, parlant du film sur Picasso de Clouseau. Et brusquement, il dit « N'en déplaise à Martin !» C'est la seule preuve tangible que j'ai de discussion qui touchait à son scénario sur les églises de Saint-Onge, enfin tout le Bazin graphique, le Bazin de condensation, un Bazin de pédagogie, de simplification pour accroître la valeur d'expression de symbolisation. Et j'ai une autre preuve, c'est l'article sur rythmétique de McLaren. qu'il a produit. Il a tellement produit en retard, je ne le voyais pas arriver, que j'en ai fait un. Ce qui fait qu'il y en a eu deux. Il y a le mien, et celui, il y a celui de Bazin et le mien. Je dis le mien d'abord, puisqu'il était le premier. Alors, c'est tout un cinéma du contrôle total et de la possibilité de condensation et de la possibilité d'ordination des œuvres, de contrôle plus précis et d'ordination opérationnelle. C'est-à-dire un cinéma dont le projet est différent. Et alors, lorsque les progrès des... Et que, curieusement, Roger Lénard, avec qui nous avons travaillé, Michel Bauchet et moi-même, que Roger Lénard représente parfaitement. Il y a toute une œuvre documentaire avec des commentaires littéraires, un goût de la fidélité technique au tableau. Roger Lénard était le seul homme qui amène l'étalonneur au musée. C'est-à-dire, et c'est le Roger Lénard, le producteur des films d'animation. Non seulement il a produit des nôtres, mais il a produit aussi le très beau Trois portraits pour un oiseau qui n'existe pas de La Poujade, des films d'Alexeïev. Roger Lénard a embrassé une totalité du cinéma que je désirais aussi présenter. Et dans une certaine mesure, le contact étant difficile, je me suis trouvé un peu sur la touche. Et puis, il m'est arrivé autre chose après. Je me suis rendu compte que le plus important n'était pas seulement le cinéma et le cinéma d'animation, mais c'était toute la technologie des communications.
Alors ça, on va en parler plus tard. Mais vous avez parlé de condensation, de contrôle. Il semble bien que, vous avez parlé de Lénard, il semble bien que ce soit la transition toute faite pour en arriver à Marker et à son étrange trajet parallèle. Alors je voudrais que vous nous parliez de votre rencontre avec Marker, de votre amitié, de vos conversations avec Marker éventuellement.
Alors je ne suis pas si proche de Chris Marker, mais nous avons des relations très précises et très pointues et depuis très longtemps. Peut-être que aussi le cinéma que j'essaie de représenter n'est pas seulement le cinéma auquel j'essaie de penser, enfin qui est l'objet de mon attention, c'est finalement le cinéma formaliste. Ça rejoint Dovzhenko, Eisenstein et Walt Disney. Il y a quelque chose là, un cinéma possible. Eh bien, Chris Marker appartient à ce camp-là. Mon premier contact avec Chris Marker est un article qu'il a produit. Qu'il avait écrit une certaine forme d'ornement dans la seconde revue du cinéma et qui était consacrée à Trenka, Jerzy Trenka, pour le prince Bayaya. Et c'est un texte très beau et qui montre une compréhension d'un cinéma prosodique, d'un cinéma plastique, d'un cinéma graphique, d'un cinéma sculptural qui maintenant va sans doute devenir un cinéma important. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de l'en parler immédiatement. Comme on dit, on s'est compris tout de suite. Après, j'ai eu l'occasion d'échanger des idées avec Chris Marker, que ce soit autour des projections des films tchèques à Société France-Tchécoslovaquie, que ce soit à la suite de ses voyages en Amérique. Dès les années 50, il allait voir les progrès du cinéma d'animation, la UPA, etc., à New York ou à Los Angeles. Et puis finalement, je pense que nous ne sommes pas tellement souvent rencontré, mais on a toujours trouvé quelque chose de très... J'ai appris toujours, en tout cas, quelque chose de très important à cette occasion. Et je pense que lui a suivi mon parcours, et je suis très attentivement le sien, parce que je trouve qu'il représente presque un cinéma, lui, tout seul.
Oui, alors, comme sa solitude, est-ce que vous pouvez en parler ?
Je ne pourrais pas l'interpréter en termes psychanalytiques, en termes pathétiques. Et de toute façon, c'est un homme très occupé. C'est vraiment le premier homme multimédia que je connaisse, et je ne comprends pas que on l'ait pas mieux utilisé dans ces immenses machins à images multiples que l'on prépare et que l'on présente dans les expositions universelles. C'est un gérant d'images, enfin des millions d'images ne lui font pas peur. Il arrive à les faire croiser, à les faire choquer, à tirer des sens que l'on n'attendait pas, et des deux à la fois, qui en font vraiment un homme de la communication par le texte, par l'image, fixe et animée. Et c'est cette... je crois que ça n'est pas en tant que spécialité que j'apprécie cette œuvre, mais c'est parce que pour moi, elle représente véritablement un cinéma qui pourrait jouer avec tous les niveaux de l'image, avec toutes les formes d'image.
Mais alors, bon, il y a chez Marker tout de même une influence qui est d'ailleurs la même que reconnaît très facilement Roger Lénard quand on en parle. Et c'est très évidemment chez vous, dans vos articles et dans votre façon d'être, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la littérature. Enfin, moi, je veux savoir la place de la littérature, du texte, et finalement de quelqu'un de très précis qui est Jean Giraudoux, dans tout ça.
Bon, alors je pense qu'il y a dans la rhétorique, effectivement, de Chris Marker, quelque chose qui se rapproche un peu de Giraudoux. Mais je pense que c'est une richesse orale dans une œuvre écrite, très écrite. Et les commentaires de Chris Marker nous rappellent l'importance d'un certain courant de ressources littéraires dans tout un cinéma qui va de Roger Lénard jusqu'à Alain René. Je pense que le rôle de la prosodie dans les œuvres d'Alain René et dans l'œuvre de Chris Marker prouve que la colonne sonore peut se charger d'une valeur littéraire en tant que machine à exprimer, à utiliser le sens. Et de toute façon, d'ailleurs, on en voit la preuve dès le premier film, Les Statues meurent aussi, de Marker et René, dans lequel il y a le commentaire à une valeur poétique. J'aimerais pouvoir le citer par cœur.
quand on regarde aussi bien Lettres de Sibérie que d'une certaine façon, les films qu'il n'a pas vraiment signés, mais où il est traité,
Le Fond de l'Air et Rouge,
plus récemment, Le Fond de l'Air et Rouge, je ne sais pas s'il l'a signé, mais qui est très 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 marqué, de toute évidence, et surtout Sans Soleil, on découvre tout de même que supprimer la colonne sonore dont vous parlez, l'édifice, alors que devient l'édifice visuel, alors l'édifice.
Mais de toute façon, d'abord, l'édifice visuel est très riche aussi, puisque on y voit non seulement le photographe, qui est un grand photographe, le cinéaste, qui est un cinéaste important, et le collectionneur de photographies. Il rapproche, dans tous ses films, il y a toujours non seulement des séquences prises sur le vif, des documents anciens, des gravures du XVIIe siècle, des morceaux de musique et du texte. Et ça, c'est une très vieille tendance de Chris Marker, parce qu'il y a non seulement son œuvre littéraire, par exemple le roman, le roman qu'il a écrit, je ne me souviens plus du titre, mais toutes ses œuvres quasiment pédagogiques. Je pense aux productions pédagogiques ou de vulgarisation des éditions du Seuil. Par exemple, la série des petits livres sur Regard Neuf, Alors, par exemple, Regard Neuf sur le monde ouvrier, Regard Neuf sur le cinéma avec Bazin, Edgar Morin, et c'était déjà une préfiguration de tout le mouvement critique et le mouvement de promotion du cinéma. Ce petit livre m'a certainement très influencé. Je pense que c'était dans les années 45 ou 47. Et dans ces livres, et même dans certains documents pour le mouvement des jeunes et de la culture antérieure, on retrouve toujours chez Chris Marker ce goût de l'anthologie, de l'abondance des documents, du choc entre les documents, la partition musicale, la citation littéraire, c'est-à-dire toute la mémoire du monde. Et je crois que dans tous ces films, on retrouve ce goût de la bibliothèque la plus étendue, où on trouverait toutes les images significatives, immobiles, personnelles ou empruntées.
Bon, alors, ce qui nous ramène à vous au nom de deux choses, en tout cas, pour ce qui le concerne lui, il est évident qu'il est le seul, avec Godard, tout compte fait, à pratiquer un genre qui ne se pratique d'ailleurs qu'en France, à ma connaissance, et qui est l'essai audiovisuel, puisque Sans Soleil n'a rien à voir avec un documentaire, ça n'a rien à voir avec un récit, c'est un essai audiovisuel au même titre qu'un essai de Roland Barthes, par exemple. Et Godard avait pratiqué la même chose à la grande stupéfaction des télévisions qu'il employait avec ses séries de l'été 76, c'était le sur et sous la communication, et avec France Tour des Tours, Deux Enfants. Donc il existe un genre qui s'est créé en France qui est l'essai audiovisuel, et puis alors il y a la chose dont vous étiez tout compte fait, André Martin, le prophète, ce que vous appelez l'image de synthèse, et qui maintenant devient
une technologie.
Oui, alors, et qui d'ailleurs est inscrite et qui joue vraiment une place très importante dans le film de Marker, Sans Soleil. Alors moi, je voudrais que vous parliez des deux, c'est-à-dire du deuxième point, c'est-à-dire celui qui vous passionne le plus. Mais l'essai audiovisuel, est-ce que ça vous suggère?
Oui, absolument. C'est Chris Marker est l'homme dans sa mobilité, dans son agilité, à escalader les lieux, les niveaux d'imagerie, et sans doute l'homme qui préfigure le plus ce que seront les super vidéodisques numériques qui vont apparaître à partir des années 90. et qui seront des instruments où 50 000 images pourront être parcourues soit en mouvement, soit une par une, soit en relation particulière prévue, non prévue, imprévisible. À cet égard, un des plus avancés, le vidéodisque du MIT, qui vous fait visiter la ville d'Aspen, en vous donnant la possibilité, en touchant l'écran, de tourner à droite ou de tourner à gauche, de vous arrêter, de voir les états successifs d'un immeuble historique il y a 100 ans, il y a 200 ans, ou même d'assister à une interview du maire ou du shérif, parle d'une espèce de liberté de parcours proustien, ou de curiosité baconienne, ou dans l'image par image qui va caractériser l'évolution de l'audiovisuel dans les années 90. C'est-à-dire des formes de liberté opérationnelle, des formes de liberté de curiosité qui renouvelleront complètement le cinéma. Eh bien, Chris Marker, dans Sans Soleil, la sorte de vibration, d'oscillation entre le Japon, entre les îles Guinée-Bissau, etc., et qui est calculé de la même façon que Alain René avait fait un schéma oscillatoire des lieux et des temps dans
l'année dernière, Marienbad.
Chris Marker a travaillé à partir d'un schéma oscillatoire où, par exemple, le début, l'ouverture du film, c'est je me rappelle plus, c'est Japon,
La première image, c'est
non.
Visiblement...
Ah oui, Islande, Japon. C'est ça. Alors le schéma, c'est comme ça. Islande, Japon. Vous voyez, il y a une sorte de construction comme ça. Et cette oscillation est calculée quand on envoie le dessin, on se rend compte que c'est une architecture. Eh bien, ces architectures, dans la perspective des œuvres audiovisuelles programmées, dont on prévoira les embranchements, les contacts, les retours, les boucles, les cycles, retrouveront ce type d'inspiration.
Oui, alors, Caroline Champetier, vous avez une question.
Je serais intéressée d'entendre parler Martin, c'est peut-être pas le moment.
André
exact,
Martin, oui.
Sur Coppola, Spielberg, et si par hasard, vous l'avez vu, sur le film de Chantal Akerman.
Oui, mais alors là, je trouve déjà qu'on a un peu trop parlé de moi. Je voudrais surtout, parce que je pense que vous allez me reprendre la parole dans 3 minutes, je voudrais quand même dire plus de choses sur le film, parce que je voudrais vraiment qu'on ne le manque pas.
Non, bien sûr, bien sûr.
À la fois comme film cinématographique, et en même temps comme message prophétique sur une évolution, sur le pivot actuel de l'audiovisuel.
Non, mais allez-y, nous avons tout le temps.
Alors, je préférerais peut-être vous en parler après, mais parce que Coppola, on peut dire aussi que c'est un de ses pionniers, d'ailleurs, Chris Marker est en rapport aussi avec Coppola, et que dans son dernier film, Coppola a un peu oublié de faire le film. Il a oublié de faire le dialogue et il n'a pas assez travaillé le scénario. Mais il a avancé la conscience du support et la capacité de le maîtriser. Et ce sont des attitudes de régression que l'on doit fatalement rencontrer quand on entre dans un nouveau support et dans un nouveau système de construction.
Bon, alors Marker.
Pour Chris Marker, par où partir ? Oui, je disais, alors peut-être l'aspect prophétique. Il nous fait son film, l'alternance des lieux, est construit un peu comme un satellite qui voit tout le monde à la fois et qui fait passer à grande vitesse les lieux et qui repasse aux mêmes endroits. La construction rappelle celle des scénarios programmés qui pourront, à certaines étapes, donner le choix entre trois lignes ou entre une boucle d'explication, etc. Bref, une espèce de construction arborescente, une dramaturgie arborescente qui va, alors là c'est des théories un peu personnelles, qui va nous amener aux dépens des dramaturgies navrées, inquiètes, ambiguës, perdues, libidineuses, etc., une dramaturgie de l'action, du projet, de l'opération, de l'entreprise. Avec tous les risques que ça comporte, mais aussi peut-être des avantages.
C'est ça. Vous voulez dire que... Enfin, traduit dans un langage plus...
Mais je le dis un peu général pour aller...
Non, vous avez raison. Non, mais là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. C'est que vous avez l'air d'annoncer la fin d'un narcissisme et pour le repassage comme si les yeux qui avaient été tournés vers notre intérieur, vers nos chambres intérieures pendant des années, au bout du compte, se décidaient soudain à revoir le monde, donc aussitôt à s'y projeter, à le parcourir, à s'y promener comme Marker, et à découvrir les premiers germes de la survie, de ce qu'il appelle la survie, absolument. Puisque c'est ça dont il veut parler.
Absolument. Et je trouve qu'il annonce d'une façon un peu peut-être démonstrative, puisque c'est une sorte de démonstration, c'est une sorte de discours, des choses qui pourront après apparaître d'une façon plus intime, plus dramaturgique, plus scénographique. C'est-à-dire, il annonce d'une façon documentaire un état d'esprit qui devrait devenir un état d'esprit général dans les années 80. C'est en train d'arriver.
C'est-à-dire que c'est là que le contenu politique et moral se confond avec la forme adoptée.
Avec le support, avec les capacités de traitement et avec la forme, avec le contenu. Oui, oui. Oui,
Caroline Chabonnier.
Oui, parce que ce film, moi, me surprend beaucoup. C'est-à-dire que, effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent à moi à partir de ça. C'est quand même un film qui est, du point de vue littéraire, traité sur le mode le plus ancien qu'on puisse imaginer, le mode de communication le plus vieux, et qui est la lettre. C'est-à-dire ce langage totalement intime qu'on adresse à quelqu'un, que visiblement, en plus, il adresse à une femme. Et puis, par ailleurs,
il y a... Et ça n'est pas la première fois qu'il le fait.
Non. Mais et par ailleurs, il y a des montées dans l'image et dans le traitement de l'image qui m'apparaissent, oui, effectivement, peut-être très au-delà de ce que je peux, en tout cas moi maintenant, arriver à regarder, à gérer. Ça va trop vite. Très très souvent, ça va trop vite. Ce que j'aimerais, c'est que vous expliquiez cette contradiction avec une culture.
Oui, parce que quand on vous écoute, André Martin, on s'aperçoit que vous avez... que vous aussi, vous avez toujours été, d'ailleurs, aussi bien en écrivant qu'en parlant, vous avez toujours été extrêmement vite. C'est-à-dire que c'est un compliment, parce que ça suppose une très très grande...
Ou un entraînement. Alors, je voudrais dire deux choses. Moi, mon entraînement cinématographique, ce sont les dessins animés. Autrement dit, et les dessins animés, quand personne n'en parlait, en d'autres termes, il fallait copier les génériques à la vitesse de leur défilement. Et or, des génériques de dessins animés, il fallait parfois que je les voie trois fois pour arriver à prendre tous les postes clés, car il fallait démontrer qu'il y avait là une cité des films d'animation. D'autre part, les effets d'un Tex Avery, par exemple, qui maintenant font partie du folklore des jeunes spectateurs, sont des effets qui fonctionnent au 50e de seconde ou à 3 50e de seconde. Et or, ils ont, du point de vue du symbole, du point de vue de la satire, du point de vue du pastiche, des choses qu'il faut sélectionner à 3 50e de seconde. Il y a donc une vitesse possible, exploitable du point de vue dramatique. D'autre part, je voudrais dire qu'il n'est pas exclu que l'on s'habitue à regarder cette vitesse. Je reprends le vidéodisque parce que, curieusement, maintenant, nous disposons d'une technique, d'une technologie, le vidéodisque interactif avec manipulation numérique, qui peut, par exemple, vous faire défiler toutes les images une par une. Et or, on se rend compte qu'on peut repérer l'image que l'on veut en les faisant défiler très vite. C'est vraiment pas la peine d'aller à la Bibliothèque nationale, de tourner la page, de s'arrêter en regardant autour parce qu'on en a déchiré un bout, de tourner. Et on peut vraiment réviser quand on cherche quelque chose, et voir celle que l'on veut.
Mais elle est en rapport avec quoi, cette rapidité? Parce que la rapidité n'existe que par rapport à une lenteur.
Avec...
Et dans le film de Marker, il y a quelque chose d'affectif.
Oui,
et dans la lettre, il y a quelque chose de lent.
Oui. Alors, c'est cette contradiction-là qui m'a... Je voulais expliquer, d'abord le poser comme possibilité. Après, le style... Alors, je voudrais dire... Alors, il faudrait que j'y pense pour vous donner une réponse sérieuse, mais que, justement, le langage épistolaire, c'est le genre épistolaire, est un genre d'extrême contrôle du langage, et avec une relative lenteur, encore que le commentaire parle assez vite. Les commentaires de Chris Marker vont vite. Mais l'image... Alors, moi, je peux vous dire... Je ne pourrais pas vous donner une explication, je pourrais vous dire comment je le ressens. Je le ressens suavement, comme un orgue, avec les pédales, ce qu'on joue avec les pieds, ce qu'on joue avec les mains et la possibilité de jouer sur plusieurs jeux. Et tantôt le commentaire épistolaire s'alanguit et l'image s'accélère, tantôt c'est au contraire l'image qui s'accélère et le commentaire qui devient rhétorique, qui fait des jeux de mots, qui fait de la redondance, qui donne du supplément d'information. Et soudain, à certains moments, les deux, pendant une seconde ou deux, se retrouvent pour s'écarter. Et on en a un exemple que je ne saurais pas décrire, ça prendrait trop de temps, dans les 20 premières secondes du film, où il parle des essais successifs, et parfois ça ne marche pas. Quand il essaie le commentaire sur les images, et parfois ça ne marche pas. Et là, on voit une image de missile intercontinental, et brusquement, et ça aussi, c'est très vite. Je ne saurais pas vous dire à quelle vitesse ça passe, mais ce n'est évidemment... C'est un cinéma de survol, c'est un cinéma de recherche de la totalité et non pas un cinéma de pénétration dans la situation.
Mais la profondeur là-dedans, elle a quand même... Il y a une profondeur chez Marker.
Il y a une profondeur, mais qui est une profondeur aiguë, qui est une profondeur nerveuse, extrêmement intense et rapide. Ce n'est pas extensif. Ce sont des éclairs.
Et le Japon, c'est un choix qui lui vient de sa vie, ou c'est parce que c'est la société la plus industrialisée du monde, où la rapidité et la lenteur, là, c'est une contradiction permanente de la vie.
Oui, mais moi, je crois que le Japon, d'autre part, il a quelques... Je pense effectivement que c'est en tant qu'exemple des sociétés à la fois les plus...
C'est là où les
avancées.
Femmes marchent le plus lentement, vous vous rendez compte? Les femmes marchent
non, mais c'est une,
au Japon plus lentement que toutes les autres femmes du monde.
Non, mais c'est le rapport entre des traditions extrêmement, extrêmement bien conservées pour leur âge et des recherches de modernité plus ou moins inévitables. Le Japon, effectivement, est un pays qui a toujours captivé Chris Marker. Il n'a jamais cessé de rester au courant, de les visiter, etc. Et d'autre part, je pense que dans une certaine mesure, c'est parce que c'est effectivement, de la même façon que son cinéma, essaie d'aller au plus loin dans le propre de la chronophotographie, puisqu'il tombe jusqu'à presque une image près, et au plus loin de la littérature intime, qui est le genre épistolaire, c'est-à-dire la lettre d'une personne à une autre, il est intéressé par ce contraste japonais, puisqu'il le suit même jusqu'aux images électroniques.
Oui, alors ce que vous êtes en train de... je vais essayer de faire le point pour moi-même. C'est, vous êtes en train de définir un clavier audiovisuel.
Un orgue immense. C'est le 17e siècle. Nous sommes au 17e siècle. On est en train d'inventer les machines à audiovisuel avec la même ampleur et le même renouvellement.
Excusez-moi, mais il y a quand même quelque chose d'assez drôle dans cette histoire. C'est que normalement, les gens qui devraient m'en parler devraient être des jeunes gens de 22, 23 ans. Or, il se trouve que ce sont des gens, que Chris Marker est un auteur qu'on peut dire maintenant chevronné, que vous-même, sans vous demander votre âge, vous avez certainement dépassé la cinquantaine, puisque je l'ai dépassé moi, donc, puisque je vais l'atteindre moi. Donc, il y a tout de même une sorte de paradoxe entre très visiblement, vous êtes un civilisé et quelqu'un de très réellement profondément cultivé. Et soudain, vous êtes de ceux qui... Alors, qu'est-ce que c'est que cette drôle de renaissance?
Eh bien, je pense que le... Alors, attendez, c'est difficile à définir, mais je pense que la façon dont le cinéma arrive aux garçons est d'une façon rituelle et sociale. Ils ont, vous savez, c'est le peintre qui voit, c'est Giotto qui voit, je ne me rappelle plus qui dit « Moi aussi, je suis peintre ». C'est une autre race de créateurs que ceux qui, attirés par les supports, par les instruments, comprennent des moyens d'expression et s'engagent à les utiliser. Tandis que dans le cinéma récent, les conquêtes ont plutôt été l'allègement de la caméra. Enfin, c'était moins lourd, c'était plus rapide, on pouvait tourner plus... C'était plutôt la pente de la facilité de tournage. Tandis que là, des pensées, l'existence d'un support, la possibilité d'un organe, d'une série d'instruments à la fois... par des manières qui sont instrumentales et compositionnelles de fabriquer quelque chose, c'est peut-être une tendance moins répandue, surtout dans l'audiovisuel dynamique. Il se trouve que le cinéma d'animation a toujours été le réceptacle de tous ceux qui rêvaient de cette création totale à partir d'éléments instrumentaux. Et Chris Marker lui-même, dans ses films, il y a de l'animation, le pastiche de United Production of Siberia Presence, la partie de Forlani dans Lettres de Sibérie. Bon, alors, si l'on a le souci de la compréhension des supports, le souci de la compréhension du système de construction du support qu'on utilise, l'image par image. Beaucoup de cinéastes ne savent pas ce qui se passe dans la caméra. Ils regardent si c'est bon ou si c'est pas bon. Se préoccuper de la caméra, vouloir mettre la main dedans, faire des trucages, vous voyez, tout cela, c'est entrer dans les capacités de représentation. Et je pense que, en tout cas en ce qui me concerne, le fait que j'ai suivi le cinéma d'animation de ses origines jusqu'à nos jours, et que j'ai assisté et même essayé de promouvoir une diversification instrumentale considérable, notamment l'œuvre de McLaren, l'école canadienne, j'étais donc prêt, dès les années 60, à me rendre compte que quelque chose arrivait au niveau de l'informatique, et que les images devenaient informatiques, et qu'elles avaient des capacités complètement différentes.
Au moment où vos collègues, puisqu'il s'agissait de collègues, de journalistes des Cahiers du cinéma, faisaient à bout de souffle les films avec Jean-Pierre Léaud.
Mais c'est ça qu'il fallait faire. Il est bien évident qu'il fallait libérer le régime de langage et d'expression dominant. Mais en même temps, un autre décès. Je crois que ma grande spécialité, c'est de ne jamais rater une origine. Et autant, c'est un peu mon avantage. Je la vois. Alors, par exemple, j'ai tout de suite vu, étant donné ce que l'on pouvait escompter, de l'accroissement prévisible de la capacité des mémoires informatiques, de la capacité des logiciels d'application, qu'il s'agissait là, au bel téléphone, dans les années 62, 63, quelque chose dont on ne se débarrasserait pas facilement. Et qui était terriblement intéressant, puisque c'était une nouvelle manière de recomposer une image complètement avec un système sans précédent. Par la suite, on s'est rendu compte qu'effectivement, la puissance informatique apportait quelque chose à l'image de considérable et qui est sans doute sans précédent dans l'humanité. L'informatisation des images, vous me permettez un petit développement ?
Oui, absolument.
Très court. L'informatisation des images, alors je ne suis pas un technicien, je ferai peut-être des erreurs de vocabulaire, mais consiste à saisir des images, à les traduire en signal digital, discontinu, tout ou rien.
Numérique.
Attendez, permettez-moi de dire digital, parce que c'est le côté digital, et après, de transformer ce signal en tout ou rien en tableau de chiffres. C'est là, à mon avis, qu'il devient numérique, puisque ce sont des tableaux de chiffres. À partir de là, on va se trouver devant des images qui sont toujours des tableaux de chiffres, et tous les tableaux de chiffres sont des images. On va donc pouvoir transformer, comme on voudra, le tableau de chiffres, par calcul, par inclusion, faire entrer quelque chose, permutation, etc. Et on se trouve devant des images indéfiniment remodelables. À partir de là, on arrive par exemple au spectacle audiovisuel réservé jusqu'à présent pour les militaires et pour les aviateurs des instruments de simulation. D'abord, on a une immense possibilité de modélisation, représenter les choses à partir, quand on a représenté le bas d'une maison et un côté, on a la maison, parce que le calcul, je vous le donne.
Si vous me permettez, je peux dire que c'est ce qu'on a vu pour le générique des élections d'Antenne 2 dimanche.
Absolument important,
très
important.
Et qu'on va revoir dans quelques minutes, je suppose, sur Antenne 2.
C'est la première fois que les images de simulation entrent au niveau des programmes courants. Mais nous sommes vraiment...
Vous en avez fait un ?
J'en ai fait un, oui. Maison Vol, un petit film avec la Sogitech.
Qu'on a vu plusieurs fois à la télévision.
Alors, oui, c'est la première fois qu'on faisait un objet animé tridimensionnel à des fins narrativo-esthétiques.
Alors justement, c'est la question que je
vous pose. Simplement terminer et dire que ces images sont des images constamment renouvelables, que l'on peut modifier, que l'on peut piloter. On se trouve pour la première fois devant un nombre fini d'informations et que l'on va pouvoir, avec un manche à balai, piloter comme un véritable véhicule. D'où l'intérêt pour les entraînements au pilotage ou à des systèmes complexes, mais aussi l'intérêt pour ceux qui s'intéressent au rapport entre la ciné-peinture, les imageries dynamiques et les capacités chorégraphiques humaines de ces images.
La question que je vais vous poser, André Martin, justement, elle est là. C'est compte tenu de ce que aujourd'hui nous pouvons montrer sur un écran de cinéma ou de télévision. Et c'est vrai autant des scénarios possibles que de la façon de les représenter, de les imaginer, de matérialiser ces images. Pour ce qui est du scénario, on peut tout représenter désormais dans la mesure où toutes les censures sont terminées. On peut évidemment, dans la vie de quelqu'un, raconter à la fois sa façon de manger, que sa façon de faire l'amour, et au bout du compte, pratiquement, on s'en rend compte en allant au cinéma régulièrement, sur le même plan, enfin, sur le même... on voit les gens, ils sont en train de faire l'amour. C'est vrai, même des feuilletons de télévision. Alors donc on a une extraordinaire liberté de choix dans ce qui, dans la durée, dans les segments de durée que, de la vie des gens qu'on peut montrer. Alors deuxièmement, ce que vous êtes en train de définir avec vos prodigieux appareils, avec votre clavier audiovisuel, laisse entendre que si un scénariste demain imagine les choses les plus insensées, il se trouvera des techniciens pour dire mais oui, pourquoi pas. Oui. Bon, alors.
Vous voulez dire insensé, d'une façon illustrative.
Des choses extrêmement difficiles. Des métamorphoses. Je pense à Babylone.
On refera Babylone beaucoup plus facilement.
Et beaucoup moins cher.
Et beaucoup moins cher, oui.
Bon. C'est fantastique ce que vous dites. Parce que, alors, la question qu'on se pose, parce que tout à l'heure vous avez glissé sur Coppola, et c'est là qu'il me semble que la question de Caroline redevient forte, parce qu'en même temps on ne s'écarte pas du tout de Chris Marker, c'est que Chris Marker a, avec la fiction, des rapports de tout temps, qui sont des rapports de frôlement.
Oui.
C'est-à-dire, j'y vais, mais... C'est totalement documentaire ce que je fais, mais regardez bien. En fait, c'est beaucoup plus fort que
la jetée. Image fixe, sauf un plan animé.
Et c'est beaucoup plus fort que la fiction. Et je me fais fort, moi, avec une voix et des images, de créer une impression qui est. Voilà. Que devient. Alors, vraiment, on a envie d'interroger le prophète. Que devient la fiction maintenant? Parce que vous avez aimé aussi, je suppose que vous continuez d'aimer beaucoup le cinéma de fiction.
Absolument. Alors là,
prenons Marker, si vous voulez, comme exemple, prenons également les exemples donnés par Caroline.
Il faudrait un peu réfléchir parce que je vais manquer certainement. Alors, il est évident que, par exemple, la possibilité d'un art érotique savant cinématographique, lorsque on aura fait toutes les perversités simples et tout le clinique pur, et il faudra trouver autre chose. Alors il y aura la combinatoire, mais
par exemple, parce que
Cassie a déjà pensé dans un film d'animation d'ailleurs.
Mais parce que c'est drôle parce qu'en fait, on peut illustrer ça très simplement parce qu'il y a un scénario dont j'ai toujours rêvé mais qui était impossible jusqu'à vous et qui était parce que deux sexes c'est trop simple. Inventons sept sexes dans une planète où il y aurait sept sexes. Avec des interdits relatifs, c'est-à-dire que A peut coucher avec B, mais il est absolument interdit que A fasse l'amour avec E, parce que sous prétexte d'avoir à dire plusieurs ave et cinq pater, ça c'est complètement réalisable avec
Absolument. Votre Rovchik vous fera ça, on le voit bien. Vous savez, depuis Alien, on voit bien que la possibilité de présentation d'organicisme fou devient absolument possible et même extrêmement probable. Je voudrais dire de plus que le cinéma peut redevenir spectaculaire. Et ce qu'on avait aimé chez Eric Pommer, Alexandre Korda, Orson Welles, notamment...
Eric Pommer, c'était le producteur des films de la Oufa de 1925-1930.
Je pense à certaines introductions d'effets de trucage et d'effets graphiques. Il y a toute une gamme d'effets, je ne sais pas pourquoi je l'ai cité, c'est parce que je voulais être exhaustif et montrer que ça remontait, ça partait de l'expressionnisme allemand. Donc le spectaculaire tel qu'il avait été à l'époque de, par exemple, les productions de la RKO des années 40, Orson Welles par exemple, où il y avait toujours des moments d'extension plus proche de la bande dessinée que du cinéma de studio habituel.
C'est vrai dans Kane, de manière très
Alors, c'est Kane, oui, il y a le plan le plus immense du discours de la campagne électorale. Il y a dans Magnificent Emerson, la famille jugeant le jeune. Il y a donc le spectaculaire. Il y a d'abord le spectaculaire essentiel, c'est-à-dire les grandes machines. Alors qu'ils vont pouvoir devenir encore plus meilleurs en exploitant les meilleures capacités graphiques, les meilleurs imaginaires architecturaux. Fritz Lang était un architecte.
C'est un peu le Tron qui est l'ébauche de ce genre de film.
Tron était. Mais non, je pense à Star Wars là, parce que c'est-à-dire la capacité de représenter des impossibles, des galaxies, des fusées fantastiques, des explosions. Des cités. Nous avons Tron qui est la création d'une chose totalement impossible. Alors c'est la synthèse totale et votre film rentrerait un peu, votre projet que je souhaite voir un jour rentrerait dans la deuxième catégorie. Il y a une troisième catégorie qui serait le coup de pouce plastico-graphique à des actions archi-crédibles. Alors, par exemple, c'est les brusques, dans un scénario absolument hollywoodien d'Hitchcock, de brusques extensions dans les oiseaux, les parties d'animation, les trois oiseaux, image par image, à la fin, qui sont les plus, qui surveillent le départ inquiétant, l'explosion de la station d'essence vue d'oiseaux, et qui est faite avec des systèmes de travelling-mat qui sont beaucoup plus faciles avec une image numérisée.
Et qui est d'ailleurs entièrement dessinée à l'avance.
Et qui est entièrement dessinée, sauf la petite partie existe, c'est-à-dire c'est dans un cadre dessiné, une chose réelle, le tout pris d'une très haute tour. Alors il y a toute cette tradition de Cedric Gibbons, vous voyez, tous ces gens de la MGM qui avaient entretenu des qualités d'ampleur monumentale, architecturale, Griffiths aussi, et qui a un peu disparu à cause de la difficulté. Il y aurait aussi des tout petits coups de pouce graphiques dans des films policiers, un élément d'enrichissement architectural ou plastique qui redonnerait une joie de construction visuelle. On imagine ce que pourraient devenir de véritables opéras cinématographiques. Oui. Et ils sont en train de devenir. Le genre commence à se...
Mais avec aussi modification du matériel existant. C'est-à-dire, on peut reprendre des plans des années 20 et leur redonner une toute autre nature.
Absolument. Alors là, vous abordez là une autre dimension, qui est la dimension de l'exploitation synthétique de documents existants. Par exemple, la coloration de documents en noir et blanc, on pourra nous faire le zéro de conduite en couleur. Le New York Tech a maintenant... Non, je dis pas que c'est désirable, je dis que ça arrivera. Mais d'autre part, ça peut servir pour, par exemple...
Mais dans votre discours, il est à la fois fascinant et inquiétant parce qu'on se dit, voilà, il y a quelque chose de nouveau. Mais c'est comme si Griffiths, juste après qu'il ait inventé le gros plan, soit venu au cinéma des cinéastes en nous expliquant qu'il n'y aura plus que des gros plans.
Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a plus de très larges plans. C'est qu'il n'y a plus de grands plans d'ensemble que lorsqu'ils sont gratuits. C'est-à-dire des plans. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus que des grands plans d'ensemble.
Il pourrait y avoir un cinéma de cette fabrication synthétique, comme vous la décrivez, qui ne soit que ça. Ce qui serait intéressant, ça serait que le cinéma trouve son compte là-dedans.
Mais c'est ça, je me suis mal exprimé. Je voulais dire que d'abord, il y en aura qui sont des grands trucs architecturaux, mais qu'il y aura aussi des petits coups de pouce qui situeraient... Et il y en avait une dernière, alors je vais vous la donner. C'est une nouvelle dramaturgie qui serait une dramaturgie opérationnelle, c'est-à-dire une dramaturgie de l'homme ulysséen, à la fois peut-être rusé, picaresque, mais aussi entreprenant, prenant des décisions, et qui s'opposerait à une dramaturgie édipéenne, un peu la dramaturgie du malaise, une dramaturgie de la perte de gouvernail, où abondent les hommes paumés, perdus, quadragénaires, se posant des problèmes, des choses. C'est-à-dire un cinéma de certitude qui serait un cinéma d'entreprise, un cinéma d'opération, comme on trouvait dans un certain cinéma de John Ford et qui a pratiquement disparu.
Attention, il a disparu pour des raisons historiques extrêmement précises. Oui. C'est-à-dire qu'il a disparu avec la guerre du Vietnam, oui. Il a disparu avec les pertes de certitude américaine, etc. Donc, s'il ne reparaît, et c'est ce qui me fascine là encore, c'est l'étrange conjonction historique entre ce qui se passe actuellement pour l'histoire de nos sociétés et l'apparition de ces nouveaux mots. Enfin, là-dessus, je pense que vous avez réfléchi.
Oui, absolument. Et je n'arrive pas à le dire en trois mots, mais dans l'informatique et dans les images interactives, il y a quelque chose, et d'ailleurs Chris Marker le dit dans sa partie proprement électronique et informatique, c'est une bonne occasion de revenir, en disant que alors je ne me rappelle plus la phrase exacte, mais que les jeux vidéo sont peut-être un plan de sauvegarde de l'électronique pour sauver l'humanité. Eh bien, là, je vous assure que le poète a plus raison que ceux qui croient que l'électronique, c'est simplement de vendre des écrans télématiques à tout le monde. Il y a là quelque chose de central qui nous apprend en matière de séquencement des actes, de coordination des projets, de compréhension des étapes, quelque chose qui va être la grande leçon morale de ces 20 prochaines années. Alors, à travers ces petits appareils qui ne sont qu'à leur première décennie, nous voyons, avec le développement de l'informatique, des images interactives, se lever la possibilité d'une dramaturgie de l'action, du projet, un goût renouvelé pour l'art de lever les difficultés, de se gouverner soi-même, et qui était déjà présenté que la littérature picaresque a très bien illustré dans le siècle d'or espagnol, que Buster Keaton annonçait, et qui pourrait devenir une des catégories nouvelles de la dramaturgie cinématographique dans les années qui viennent.
Merci André Martin. Alors évidemment, le prétexte de vous rencontrer, qui est un prétexte, qui est un film, enfin, dont je rappelle le titre, Sans soleil, de Chris Marker, et que nous vous invitons naturellement à aller voir. Mais enfin, il est bien évident que cette conversation de 50 minutes n'a d'aucune façon épuisé le sujet de cette conversation, et que j'espère bien, André Martin, en vous remerciant d'être venu une première fois, que vous reviendrez d'autres fois et des prochaines fois pour nous dire
la suite
qui est passionnante de ce que vous nous avez dit aujourd'hui.
C'était Le cinéma des cinéastes de Claude-Jean Philippe avec André Martin à propos de Sans soleil, un film de Chris Marker. Première diffusion le 13 mars 1983 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.